Ballon du Noir, deuxième partie.
Et c'est toi qui reprends avec...
Voilà, comme il commence à faire un petit peu chaud, en fait, je vous propose d'aller faire un tour en Écosse, au bord du Loch Ness, en plein hiver de 1892. Le roman s'appelle « Le sang des Highlands ». Il est écrit par Gilles Bornet et il est publié aux éditions City. Alors, on va retrouver dans ce roman le personnage de Joe Hackney, que Gilles Bornet avait créé en 2001 déjà.
Oui, c'est ce que j'allais dire, ça fait quelques années. Hein.
Dans « Le Diable de Glasgow ». Alors, Joe Hackney, c'est un détective de Scotland Yard. Mais avant, il a eu un passé de truand. Un passé, maintenant, il est repenti, bien évidemment. Mais il a quand même gardé ses amitiés dans le milieu, ce qui lui sert parfois. On va le retrouver dans ce roman. Donc, pour la sixième fois, je vous laisse aller consulter les six autres. On en avait parlé dans cette émission. Les cinq autres. Et il va retourner en mission de police en Écosse. Le Diable de Glasgow se passait déjà là-bas en Écosse. Alors, c'est un pays qu'il dit détester, car en fait, lui, c'est un homme de la ville, un homme des bas quartiers de Londres. Et c'est les seuls endroits où il se sent à l'aise. Alors, vous l'imaginez au bord du Loch Ness, pendant l'hiver, à la recherche d'un monstre. Alors, le monstre, c'est pas celui du lac, hein, enfin, du Loch.
Du Loch.
Voilà, du Loch Ness. Mais, c'est un tueur sanguinaire.
En série?
Non, pas vraiment. Qui a assassiné de façon horrible, puisqu'un tueur est sanguinaire.
Un tueur sanguinaire, en général, voilà. Ça fait pas d'envie.
C'est assez quand même, c'est costaud. Il a assassiné deux Anglais, enfin, un couple, Victoria et Walter Brown. Victoria était une célèbre paléontologiste qui était sur ce bord du lac en vacances, mais aussi à la recherche de preuves de l'existence de Nessie. Nessie étant le monstre du Loch Ness.
Paléontologue très sérieuse alors.
Ben, dans le roman, c'est elle qui a découvert à l'âge de 12 ans le premier squelette de brontosaure, je crois. Alors, vu la notoriété de Victoria Brown, ça fait un peu de bruit à Londres. Et donc, du coup, ils vont envoyer Joe Hackney. Ils vont l'envoyer par le train jusqu'à Inverness. Et il va assister le chef constable.
Constable,
voilà, c'est mieux.
C'est le flic, quoi.
Qui s'appelle Gareth Thor. C'est un Gallois, un ex-militaire de l'armée britannique, un colosse. Enfin, il est vraiment très, très grand, très costaud. Et il a des idées très arrêtées sur les gens. Et surtout, sur ceux qui ne sont pas militaires, en fait. Leur confrontation et leur enquête commune va faire tout le sel de ce roman dans la nature toujours sauvage des Highlands.
Ah oui, magnifique, tu peux rajouter magnifique nature sauvage.
Là, elle est magnifique parfois, mais pas tout le temps. Dans cette nature sauvage, la superstition, du moins à l'époque, peut-être encore maintenant, a toujours encore toute sa place. Gilles Bornet va nous raconter en parallèle l'histoire du sinistre massacre de Glencoe en 1692, donc 200 ans avant l'intrigue du roman. Le lecteur avisé se doutera que les deux événements vont être liés de façon morbide.
J'espère quand même que c'est pas la vengeance d'un clan contre un autre encore. Ah, peut-être.
Je vais pas le dire.
Peut-être, non.
Comme dans tous les romans de Gilles Bornet, l'intrigue est très bien menée. On sent que l'auteur aime bien l'Écosse et il nous l'a fait aimer. Ses descriptions sont très bien faites. Pendant les diverses battues dans la forêt pour retrouver les deux gamins perdus, parce que j'ai oublié de dire que avec le couple, il y avait deux gamins et eux, ils ont pas été tués.
Mais ils
ont disparu, donc ils vont les rechercher. Donc pendant les diverses battues, on sent la tourbe humide, on se griffe aux ronces avec l'équipe de recherche, et on a aussi un peu froid.
Et je parie que le whisky n'est pas loin, je sais pas pourquoi.
Et
voilà. Mais...
Non. Et puis Gilles Bornet a un grand talent pour nous raconter la vie à l'époque victorienne, en fait. Mais pas forcément la vie à l'époque victorienne comme on la voit dans certains romans
avec
anglais.
Avec les tasses à thé et
voilà,
les petites cuillères en argent.
En fait, des grandes maisons bourgeoises. Ici, c'est plutôt la vie des petites gens où, justement, les cuillères à thé ne sont pas forcément en argent. Par contre, le thé, ils en boivent, évidemment. Il nous raconte les pubs qui ne sentent pas toujours vraiment bon. Et le whisky, le voilà.
Ah bah oui, quand même.
Le whisky, quand il y en a, ce n'est que très rarement du pur malt. La vie est difficile dans ces contrées rustiques et la corruption existe déjà. Elle doit exister depuis bien avant d'ailleurs.
Oui. Déjà au massacre de Glencoe, ça voilà. Avait été déjà. Oui.
Elle est belle et bien établie et du coup, comme toujours, ce sont les miséreux qui la subissent le plus. Mais le roman n'est pas morbide malgré son thème, comme je le disais tout à l'heure, car l'humour de l'auteur, la dérision du personnage de Hackney, qui est, je vous le rappelle, un boiteux, balafré, incorrigible romantique, donne toujours un souffle sarcastique au roman. C'est un roman qu'on peut recommander aux amateurs de polar, aux amateurs de romans historiques, aux amateurs de romans d'enquête, aux amateurs de romans d'intrigue, de nature et même de thriller, car la tension dans le roman va constante.
Aux amateurs d'un bon roman.
Aux amateurs de bon roman. Un seul bémol, qui n'est pas du tout dû au texte, mais c'est la qualité technique du roman. Le papier n'est pas de très bonne qualité. L'impression, certaines pages, quand c'est écrit en gras, est un peu floue. Et le brochage n'est pas complètement solide. Donc c'est un peu dommage, car ça peut il faudrait bien que l'éditeur fasse attention, ça peut gâcher un peu le plaisir de lecture.
C'est sûr.
Donc je rappelle le Sand et Highland de Gilles Bornet aux éditions City.
Et je crois qu'il y a un morceau de musique qui, évidemment, évoque ce précédent roman.
Eh bien évidemment, comme à Onde Noire, on ne recule devant rien, nous allons écouter les Real Mackenzies.
Donc, Real Mackenzies, oui, on pourrait penser qu'ils viennent d'Écosse.
Qui est un groupe de Scottish Punk de Vancouver, mais c'est quand même Scottish Punk, Vancouver, qui est au Canada, mais ils sont d'origine écossaise il y a longtemps. Et morceau qu'on va écouter évoque le massacre de Glencoe, dont j'ai un peu parlé tout à l'heure parlant du roman. On écoute, et donc je vous dis pas le titre en anglais, mais c'est le massacre de Glencoe, The Real Mackenzies. Voilà, les Real Mackenzies, oui, on dit du Scottish Punk, parce qu'en fait, ils jouent du punk avec des guitares basse-batterie, mais aussi avec une ou deux cornemuses.
La cornemuse distordue.
Voilà, c'est voilà. Ça. Avec...
On va changer d'ambiance, on va changer d'époque. On revient en 2019, on revient en Europe, avec un très très beau roman.
L'Écosse, c'est en Europe. Hein.
Pardon, oui, excuse-moi.
Mais en Europe continentale, disons.
Voilà, c'est ça. Non, mais c'était plutôt, on revient à l'heure actuelle, avec un très beau roman qui est paru en début d'année, mais dont on n'avait pas encore eu le temps de parler, un roman de Victor Delarbol, qui s'appelle « Par-delà la nuit », qui est publié aux éditions Actes Sud, donc dans la collection Actes Noirs, pardon, et c'est un roman qui est traduit de l'espagnol par Claude Bleton.
« Par-delà la pluie »
Par de... Oui, par-delà la pluie. J'ai dit autre chose.
La nuit, oui.
Oh, pardon. Par-delà la pluie. Voilà, ça doit être parce que c'est un livre sur le temps que j'ai dû me tromper de saison, justement. Le temps, mais le temps qui passe. Le temps qui est une quasi-obsession dans l'œuvre de Victor Delarbol. On connaît 4 de ses précédents romans, tous publiés aux éditions Actes Sud. Les temps passés, le temps qui ne se rattrape jamais. Et en particulier les souvenirs enfouis. Donc, les mémoires, individuelles, collectives, de plus en plus individuelles. Ici, on va plutôt parler, Victor Delarbol va plutôt évoquer le temps qui s'oublie. En effet, Miguel, un des personnages principaux de ce roman,
Miguel,
vient d'apprendre qu'il est atteint d'Alzheimer. Et donc, le temps de la mémoire lui est compté. Sa fille l'accompagne dans une résidence à Tarifa pour qu'on puisse s'occuper de lui. Lui, il est résigné, transparent, presque indifférent. C'est exactement tout le contraire d'Elena, une pensionnaire avec qui il se lie d'amitié. Elle est exaltée, passionnée. Elle semble quand même repousser de sombres démons par un optimiste et une énergie vitale sans faille. Nous découvrirons qu'ils ont l'essentiel en commun, c'est-à-dire une enfance tragique. Alors, pour ne pas périr, pour ne pas pourrir, il décide de partir, de fuir, de s'enfuir. Avec une très belle bagnole que Miguel, j'ai bien dit, non, j'ai pas encore dit bien, hein, Miguel entretient très bien, donc ils partent. Ils partent d'abord vers Barcelone, parce que Miguel veut aider sa fille à se délivrer d'un homme très violent. Il veut retrouver aussi une femme. Cette femme, c'est peut-être la seule petite couleur vive qu'il y a eu dans sa vie, dans son existence, pendant, en tout et pour tout, dans toute sa longue existence d'homme au travail, pendant un week-end. Elena, toujours aussi pétulante quant à elle, va accompagner Miguel à Barcelone, mais elle veut aller plus loin. Elle voudrait bien aller voir son fils à Malbe. Mais encore une fois, d'abord, elle suivra Miguel. D'un autre côté, à l'autre bout de l'Europe, à Malmö justement, la littérature fait bien les choses. On va découvrir une jeune femme et tout son entourage. Cette jeune femme, elle s'appelle Yasmina. Elle aussi, elle tente de fuir, mais pas géographiquement. Elle tente de fuir sa misère, sa détresse, sa famille, la mère, Raquel, le grand-père impotent. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire, Yasmine, dans son coin? Ben, elle peut vendre son corps et puis elle peut vendre des informations à un flic pourri. Une sorte d'évasion, mais d'évasion sur place. Elle vend aussi des informations à celui qui tient le rat du coin. Tous, Miguel, Elena, Yasmina, sont en fait à la recherche de leur passé, de leurs aïeux, dont les destins, leurs histoires, sont autant de marques au fer rouge dans les chairs et les esprits de ces trois personnages. Des enfants sans père, pour chacun, des mères tout à la fois monstrueuses, mais aussi admirables, forte dans l'adversité, la guerre, la tourmente, parce que on va revenir dans les temps de la guerre d'Espagne, c'est un des thèmes de Victor Delarbol. Et dans ce roman, comme dans les autres d'ailleurs, il y a des portraits de femmes magnifiques, seules. Et c'est pas un hasard si Victor Delarbol évoque un très très beau tableau d'Edward Hopper qui s'appelle Soleil du matin. Une femme très seule à sa fenêtre. On a donc les mémoires individuelles des personnages qui se heurtent une fois du plus au traumatisme des mémoires collectives. La guerre d'Espagne, le franquisme, l'immigration éternelle du sud vers le nord, de la misère vers un soi-disant Eldorado qui n'existe pas. Mais notre ADN porte en lui des strates de souvenirs enfouis depuis la nuit des temps et que l'on emmène partout. Et c'est ça que nous raconte très bien Victor Delarbol. Je rappelle, ça s'appelle « Par-delà la pluie » de Victor Delarbol, traduit par Claude Bleton, et c'est dans la collection Actes Noirs de Actes Sud. Jacques, on finit avec...
Pour finir l'émission, on va retourner en Écosse. Toujours pendant la période victorienne, mais cette fois-ci à Édimbourg. Ça sera toujours en hiver, mais un petit peu plus tôt dans la période victorienne, donc en 1847. C'est un roman d'Ambroise Parry, qui s'appelle « Le cœur et la chair », qui est paru aux éditions du Seuil, et qui est traduit donc de l'anglais ou de l'écossais par Eric Betch. On va aller au 52 Queen Street. C'est une des grandes rues d'Édimbourg, dans les beaux quartiers de la capitale écossaise. Là se dresse la maison du professeur Simpson. C'est un professeur, un médecin, obstétricien, chercheur à la pointe des techniques sur les anesthésistes. On va découvrir aussi le jeune Will Ravel. Lui, il est encore tout remué par le décès d'une de ses amies, une prostituée des bas-quartiers. Et il va, au début du roman, prendre son poste d'apprenti, d'assistant, chez le distingué professeur. C'est un genre d'internat, enfin externe, un externat.
En médecine, ça c'est beaucoup.
Voilà. Et surtout à l'époque, en plus, là, c'était très codifié. Je pense que maintenant, ça l'est toujours aussi.
Oui.
Et quand, dans les jours qui suivent, donc au début du roman, on va retrouver plusieurs femmes assassinées, enfin du moins mortes, dans les conditions qui rappellent à Will la mort de son ami, il va se mettre à enquêter, vu que la police, ça n'intéresse pas beaucoup, le mort de jeunes femmes. Il va être aidé par Sarah, qui est une des femmes de chambre, donc dans la maison de 52 Queen Street du professeur. Jeune femme de chambre, délurée et déterminée. Will la craint, c'est pas facile à dire, Will la craint, mais il se sent aussi un petit peu attiré par elle et leur mission, entre guillemets, la mission qui se donne en tous les cas, de découvrir le pourquoi et le comment de ces meurtres, va les rapprocher. Il voudrait bien aussi percer le secret des rendez-vous mystérieux du professeur. Pendant cette enquête officieuse, on va chercher plus loin que les simples décès accidentels, évidemment. On va assister aussi aux côtés de Will et du professeur à quelques scènes d'accouchement, puisque c'est un médecin obstétricien. Et évidemment, des accouchements difficiles, parfois assez rudes, mais très réalistes pour l'époque. Probablement pour maintenant aussi. Je vais vous en lire un, pas forcément le pire.
Petit extrait.
Donc, ils vont au chevet de Madame Jane Carter, qui demeure à Albany Street. Son épouse est aussi un médecin. On s'attendait à un moment difficile, car le précédent accouchement de cette dame s'était prolongé 3 jours, à l'issue duquel il avait fallu briser le crâne de l'enfant afin de l'extraire des entrailles de la mère. Raven devait souvent se remettre en mémoire qu'en vérité, de nombreux bébés au monde venaient quand même vivants et intacts. Donc en fait, évidemment, l'auteur ne raconte pas ça juste pour faire du style ou de l'horreur gratuite et facile, mais pour nous rappeler les conditions de l'époque avant que les produits anesthésiques soient vraiment efficaces. C'est d'ailleurs l'un des sujets du livre, les recherches et les découvertes dans ce domaine. Le passage du simple éther au chloroforme puis à ses dérivés a permis de sauver des vies et surtout d'atténuer beaucoup, beaucoup de souffrances. On n'était pas encore à la péridurale, mais c'est déjà un beau progrès. Le roman raconte aussi la vie à cette période. Le quartier des classes aisées et dirigeantes se situe à quelques rues des quartiers malfamés, mais les deux mondes ne se croisent pas, à part les quelques riches messieurs qui vont aux putes en toute discrétion. Le personnage de Sarah, la petite servante délurée, est aussi très intéressant. Il personnifie les débuts du féminisme. Sarah n'admet pas que certains métiers lui soient interdits du simple fait qu'elle soit une femme, et elle va se battre pour prouver qu'elle a les capacités de l'exercer. Les femmes étant plus combatives et plus têtues que les hommes, même si elle n'arrive pas totalement à ses fins, elle va enfoncer quelques portes, un bon coin dans la tradition qui permettra à d'autres de se libérer un peu plus tard. J'ai dit au début que l'auteur s'appelait Ambroise Paris, mais ce n'est pas tout à fait vrai, car c'est un pseudo, le pseudo d'un couple, Christopher Brookmeyer, auteur de Polar bien connu, et de sa femme, qui, dans la vie, est médecin anesthésiste à Édimbourg. Donc elle sait de quoi elle parle, et c'est ça qui lui a donné envie de raconter cette histoire. On dit aussi que, juste avant de finir, que en fait c'est une série de romans qui va être aussi adaptée à la télé par Benedict Cumberbatch, donc le célèbre Sherlock Holmes.
Tu t'es entraîné.
Ce qui est plutôt un gage de qualité.
Voilà, et bien on arrive à la fin de cette émission, donc on vous dit comme d'habitude, chacun dans son coin avec un bon bouquin.
Ou plusieurs.
Et à bientôt, au revoir.